L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48 FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de L'Oz Actuali. Et pour cette quatrième émission, je remplace exceptionnellement Guillaume qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Et on lui passe un petit bonjour. Mais je vous rassure, tous les autres sont là. Bonjour à vous trois, Adeline, Caroline et Eric.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Au sommaire, nous aurons la chronique de Caroline pour une chronique BD. Quel album tu souhaites nous présenter aujourd'hui ?
Alors, je vais vous présenter La Légèreté de Catherine Meurice.
Ensuite, nous poursuivrons avec Adeline et Eric pour une chronique en commun. Tu peux nous en parler un petit peu, Eric ?
Oui, une chronique sur les MOOC. Donc, vous en saurez plus tout à l'heure.
Parfait. Nous terminerons... Ah non, juste avant, pardon. Il y a la traditionnelle chronique hashtag avec Adeline. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Bah, je vous laisse la surprise, mais voilà, comme d'habitude, on fera un petit tour des hashtags tendances cette semaine, à la fois en France et puis chez nous, en Lozère.
Et nous terminerons cette émission avec la revue de presse dans laquelle Eric nous parlera du prix Nobel de la littérature obtenu cette année par un parolier, Dick Rivers, je crois, non ? C'est ça ?
C'est ça, presque, presque, le Dick Rivers américain.
Voilà, d'accord, on verra ça tout à l'heure. Et Adeline nous parlera de la loi numérique.
Oui, voilà, un peu toujours dans les sujets autour des usages numériques, une loi qui vient d'être promulguée.
D'accord, et on est en train de voir, peut-être qu'on aura le coup de gueule de Caroline à la fin de cette émission.
Si on a le temps, oui.
Si on a le temps, on verra ça.
Oui, oui, je me chauffe.
Mais vous connaissez le principe de cette émission, nous avons également une invitée. Bonjour Valérie Cogolueigne.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler de la grande manifestation de ce week-end, la Lozère fait sa comédie. Mais avant d'en parler, vous allez vous présenter juste après la virgule. Alors Valérie, vous travaillez pour le département, est-ce que déjà vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Tout à fait, je suis au service communication du département de la Lozère et j'ai en charge plus particulièrement tout ce qui est événementiel pour la collectivité, c'est-à-dire l'organisation de manifestations en Lozère mais également hors Lozère et je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure donc.
D'accord, est-ce que vous êtes vous-même lozérienne ?
Absolument, je suis lozérienne, née ici, j'ai fait mes études en Lozère également jusqu'au bac, puis je suis partie faire mes études supérieures à Nîmes. Et j'ai travaillé pendant 15 ans ensuite à Montpellier. Je suis revenue m'installer en Lozère.
D'accord. Alors, est-ce qu'on verra tout ça un peu plus en détail tout à l'heure ? Mais j'imagine que pour vous, c'est important de promouvoir le territoire lozérien.
Ben, c'est tout à fait important parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une concurrence entre tous les territoires qui essaient d'attirer des touristes, des gens pour s'installer. Et il faut que nous aussi, on soit sur le jeu et que l'on puisse faire la promotion de notre département en dehors de nos frontières.
Parfait, nous reviendrons dans quelques minutes sur cette manifestation tant attendue, mais pour l'instant, c'est au tour de Caroline pour sa chronique BD. Ah, quand même, merci Caroline.
Alors oui, un album que j'ai découvert complètement par hasard j'avais entendu Catherine Meurice à sa sortie, c'était au printemps, donc j'ai un peu de retard. Mais voilà, je l'avais entendu, ça m'avait fortement intéressée. Mais voilà, derrière, je m'étais pas précipitée en librairie pour trouver son album et je suis tombée par hasard dessus. En fait, c'est même ma fille qui, au détour d'un rayon dans une librairie, me dit « Regarde, cet album, ça a l'air vachement chouette ». Alors en fait, Catherine Meurice était dessinatrice à Charlie Hebdo. Et cet album est l'album de l'après Charlie, de l'après 7 janvier 2015. Elle n'était pas ce jour-là à la conférence de rédaction du matin. Elle était en retard, donc elle est survivante grâce à ce retard. Alors elle s'en explique un petit peu dans l'album. Et cet album, c'est celui de sa reconstruction, parce que bien évidemment, l'après-Charlie a été compliqué. Et il lui a fallu, à travers ce qu'elle savait faire, le dessin, mais en même temps de ce qu'elle ne savait plus faire après les attentats, c'est-à-dire le dessin toujours, se reconstruire. Elle s'est reconstruite à la recherche de la beauté. Et cet album est absolument touchant pour ça, et puis magnifique parce que les dessins sont superbes. Bien évidemment, c'est hyper sensible. L'histoire nous touche, hein, parce que c'est un peu de notre histoire à nous aussi, quand même, cet après Charlie. Même si on ne l'a pas vécu comme elle, hein, ce sont ses amis qui ont été tués ce jour-là. Mais vraiment un magnifique album, et puis qui va vers cette épure, cette recherche de la beauté, retrouver la vie grâce à ça, c'est vraiment une très très belle leçon. Vraiment, je le recommande, je me suis régalée. C'est un album qui est sorti chez Dargaud. Alors elle dit, au bout de quelques pages où elle raconte justement cette soirée en fait, où elle a une rupture amoureuse, et c'est pour ça qu'elle est en retard ce matin-là. Et puis, elle arrive à Charlie, des voisins lui disent qu'il ne faut surtout pas rentrer, qu'il y a une prise d'otage. Elle se retrouve chez les voisins qu'elle ne connaissait pas. Et puis, bien évidemment, se passe ce que tout le monde sait, qu'elle ne comprend pas d'abord. Hein, elle dit, les terroristes tirent en l'air. Elle n'imagine pas que ça puisse être autrement. Et elle dit, cette séquence qui rompt graphiquement avec la précédente illustre métaphoriquement le basculement dans l'innommable, indicible. Je passe de mes outils habituels, la plume et l'encre de Chine, à des pastels pour un moment onirique. La scène est muette, je n'ai pas besoin de mots, je me représente en train de foncer sans rien voir dans les murs vides d'une galerie ou d'un musée. Je traverse le silence assourdissant de la mort comme dans une chambre sourde. Plus rien ne fonctionne, ni ma pensée, ni mes émotions. Je termine ma course dans le cri de Munch, seul élément coloré de la séquence. Voilà, donc ça, c'est le jour même. Et puis donc, après, l'album déroule cette reconstruction, cette incapacité à reprendre le stylo. Elle dit qu'elle ne sait plus dessiner, qu'elle ne trouve plus la technique ni les outils. Et puis ce besoin de se tourner vers la beauté. Et elle part à Rome, presque 6 mois après, à la Villa Médicis, en pensant qu'à Rome, elle va être éblouie par la beauté. Et à Rome, dans les jardins de la Villa Médicis, elle tombe sur une scène, une sculpture de l'histoire grecque, aussi dramatique que les attentats de Charlie, et tout ça la remet en perspective. C'est vraiment un album fabuleux, quoi. C'est très beau. Cette beauté qu'elle recherche, elle la transmet dans cet album. Vraiment, je le recommande, parce que c'est une belle leçon de vie. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, on est tous touchés parce qu'on a tous vécu cette séquence de façon dramatique. Et c'est une très très belle façon d'en sortir, un très bel hommage en tout cas aussi à ses collègues, bien évidemment. Hein. Voilà, donc la légèreté de Catherine Meurice après ces événements tragiques.
L'écriture, c'est elle aussi ?
Ah, tu me poses une colle, mais je crois. Enfin, il y en a très très peu en même temps. Hein. C'est beaucoup de dessins avec toutes ces différentes séquences, ces différents outils. Et je crois que oui, c'est elle aussi.
D'accord, parce que comme tu nous parlais beaucoup de dessins, justement, et pas forcément de l'écriture, c'était pour savoir.
Il y a des bulles, en fait, hein, on la voit. Alors, il y a son petit personnage, hein, elle, c'est une fine brune avec les cheveux longs, donc on l'identifie très bien dans l'album, on la suit dans ses pérégrinations. Elle a quelques amis qui l'entourent, hein, on sent la nécessité de cette amitié qui lui permet de se raccrocher à la vie aussi, mais qui, à un moment, ne suffit plus, quoi. Je pense que c'est elle. Alors là, pour le coup, tu me poses une colle.
Et donc, elle parle surtout de Charlie ou de l'après
De l'après. C'est vraiment l'après. Il y a vraiment cette séquence de démarrage qui rappelle les faits sur quelques pages. Mais après, c'est vraiment cette recherche de comment on se remet comment on peut se remettre de tout ça, quoi. Et comment elle... Alors, elle dit bien, hein, qu'elle n'a pas... c'était pas pour être publiée au départ. Ça a vraiment été un outil thérapeutique. Et voilà. Et après, bien évidemment, son éditeur et puis ses amis lui ont dit « mais il faut publier ». Mais c'était pas du tout le but. C'était vraiment, elle, c'était une thérapie. Voilà, elle a pu réouvrir à un moment donné un cahier, hein, de dessins et redessiner. Mais c'était vraiment pas dans le but de...
Est-ce qu'on voit l'évolution au fil des
on
dessins
voit, Oui, on voit l'évolution. On revoit sur ces passages de la scène sculpturale à la Villa Médicis qui redevient très noire, très. On sent bien ces différents états d'âme. C'est ça qui est assez sympa aussi, quoi.
Il y a une progression, du coup, c'est pas que des scènes de
vie. Oui, tout à fait.
D'accord.
Elle dit, elle a donné une grande interview à Télérama à la sortie du livre, elle disait « Ce livre a été fait à l'instant, je n'ai pas pensé une seule seconde à la forme du dessin, je n'avais de toute façon l'impression d'avoir perdu toute ma technique. » Voilà, c'est vraiment, pour elle, ça a vraiment été la thérapie par l'art, et je trouve ça assez fabuleux, quoi.
Et depuis, elle a repris, elle a pas repris Charlie, donc.
Alors, elle a repris, mais de façon très ponctuelle, je crois. Enfin, je suis pas trop sûre là-dessus, mais je crois qu'elle a eu besoin de se détacher. Et en tout cas, elle dit que cette recherche de la beauté l'a détachée un peu du dessin de presse, oui. Et je crois qu'elle a plus qu'une collaboration ponctuelle. En plus, bon, voilà, elle explique que c'est très compliqué. Enfin, que ça a été très compliqué de.
Oui, de revenir dans les locaux.
De revenir, voilà. Hein. Ouais. On voit, elle rêve, hein, juste après la séquence, là, jusqu'au cri de Munch, quand elle ne sait plus trop où elle en est, elle rêve d'une conférence de rédaction de l'après-Charlie, et on sent que c'est plus possible, quoi, voilà. Et c'est à partir de là qu'elle cherche.
Très bien, pour aller voir tout ça, alors, c'est l'album Légèreté de Miss Meurice.
Voilà.
Merci beaucoup, Caroline, pour cette chronique BD. On fait une courte pause musicale avant de reprendre l'interview avec Valérie. À de suite.
Oh,
Et nous voilà de retour, oui c'est pour ça que vous n'entendez pas parce que vous n'avez pas le casque. Mais tout va bien, je vous rassure, nous voilà de retour dans le quatrième numéro de l'Oz Actuali. Et on va se focaliser maintenant un petit peu plus sur la manifestation de ce week-end à Montpellier. La Lozère fait sa comédie. Est-ce que vous pouvez nous parler du principe tout simplement de cette manifestation?
Alors le principe et la volonté de département, c'est donc de mettre en place des actions de promotion de la Lozère, mais à travers différentes facettes. Pas faire uniquement un marché de produits, comme ça se fait beaucoup, sur la place de la Comédie notamment, mais véritablement d'apporter une présentation globale du territoire à travers les producteurs, bien entendu, mais également les acteurs du tourisme, les activités de pleine nature, la culture, la gastronomie, enfin bref, un petit peu toutes les facettes de la Lozère, y compris les offres d'accueil sur le territoire qui seront présentées également pendant cette manifestation.
C'est une première?
Oui, c'est une première pour la Lozère. Il y avait eu des manifestations, mais à Paris. Et là, la volonté de la collectivité, c'est de se focaliser sur les grandes métropoles régionales qui se situent à moins de 3 heures du département. Parce qu'on se rend compte avec les études de l'INSEE ou les statistiques du comité départemental du tourisme que les touristes qui viennent en Lozère sont généralement des touristes qui sont de proximité. À part les exceptions des Parisiens et paraît-il d'un groupe de Bretons qui viennent également en Lozère. Mais on a surtout des personnes qui viennent soit de Marseille, soit de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Toulouse et bien entendu de Montpellier. Et c'est la même chose également pour les gens qui envisagent éventuellement de s'installer en Lozère, puisqu'ils choisissent de quitter une ville ou une agglomération qui ne leur plaît peut-être plus pour faire le choix de venir en milieu rural. Et donc l'étude de l'INSEE a montré qu'ils étaient effectivement dans un périmètre à moins de 3 heures de notre département, d'où le choix justement d'aller à leur rencontre sur ces grandes métropoles régionales et de proposer un événement un petit peu global et d'envergure sur la Lozère.
Et là, c'est le département qui a fait la demande ou c'est la ville de Montpellier qui propose?
Non, c'est le département qui a fait la demande parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres départements qui le font également. Et la ville de Montpellier est tout à fait ouverte à accueillir ce type de manifestation. Donc on a demandé à la mairie l'autorisation de pouvoir s'installer pendant 2 jours sur l'esplanade Charles de Gaulle, qui jouxte la place de la Comédie et qui connaît un flux de passage relativement important. Je crois qu'on est à plus de 5000 personnes par jour qui passent sur cette esplanade. Donc le département a fait le choix de s'installer sur ce site passant et donc a fait la demande auprès de la mairie qui nous a accueillis à bras ouverts pour cette manifestation, sachant que la Lozère, c'était effectivement une première. On n'avait jamais eu l'occasion d'être présent de façon aussi importante sur la ville.
Et d'après ce que vous nous dites, c'est une manifestation qui pourrait donc tourner dans ces autres agglomérations?
Absolument. La volonté, c'est de pas de rester chaque année sur la même métropole, mais de tourner sur les grandes agglomérations. Et le choix a été fait de privilégier notamment Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, Toulouse, et de faire une boucle ainsi, et de revenir tous les 5 ans sur ensuite Montpellier et repartir, voilà, pour ne pas trop lasser les gens en venant tous les ans, mais et créer aussi un mouvement qui soit un peu circulaire autour de toute la Lozère.
Le désir.
Voilà.
L'envie de venir.
Pour pouvoir faire tout ça, vous avez un stand assez conséquent à disposition. C'est quoi la surface de ce stand?
Alors, on a, c'est des stands qui vont s'aligner les uns et les autres sur le long de l'esplanade pour faire une sorte d'avenue de la Lozère, entre guillemets. Et on a, je crois, pas loin de 500 mètres carrés de surface d'exposition avec 53 exposants. Des tentes qui sont un peu plus dédiées sur les animations, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et puis, on a une tente pour le département de la Lozère, qui fera le pendant avec une grande tente également pour le Lozère Tourisme, le comité départemental du tourisme. Et donc, on terminera ensuite la manifestation avec une animation par une compagnie lozérienne, qui sont les Rude Boy Crew, qui viennent installer une kermesse.
La kermesse
des Rude Boy Crew. Voilà, pour encore une fois, ne pas présenter qu'une offre de produits ou de choses à acheter ou sur la manifestation, mais vraiment lier le culturel avec le cadre de vie, tout ce que l'on peut trouver en Lozère.
Pour insister un tout petit peu plus sur ces produits quand même qu'on peut retrouver, puisque vous mettez en avant les atouts en fait, tout simplement du département, Qu'est-ce qu'on aura? J'imagine que le miel sera représenté, des choses comme ça.
On aura le miel sous toutes ses formes. On aura la châtaigne, bien entendu, crue. On aura la charcuterie, les fromages de Lozère, la viande, fleur d'Aubrac ou Elovel. On aura également les biscuits, des jus de fruits, les thés d'Aubrac seront présents. Il y aura une dégustation aussi des vins des Gorges du Tarn qui seront présents. J'en oublie peut-être d'autres, mais enfin, on a une large palette de la richesse gastronomique de la Lozère.
Et comment ont été choisis les exposants, justement?
On ne les a pas choisis. on a envoyé un dossier au mois de juin, je crois que c'était à tous les producteurs qui ont une capacité de vente. Parce que pour être sur des marchés, il faut des autorisations de vente également. Donc on s'est basé sur les fichiers qui nous ont été fournis par la Chambre d'agriculture de la Lozère et également par ceux de l'association de Lozère, qui, je dois le préciser, est également partenaire de la manifestation. Et donc, on a envoyé à plus de 170 producteurs lozériens la proposition de participer et à plus de 200 opérateurs touristiques également. Et on a eu de très bons retours. On a été même quelque peu surpris de leur volonté, justement, de participer à ce type d'événement.
Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Vous venez de le citer, de Lozère, cette association qui regroupe les artisans lozériens.
Alors, c'est une association qui a pour objectif de labelliser les produits, entre guillemets labelliser, les produits de qualité Lozère, via un cahier des charges qu'ils ont défini, qui prévoit un certain nombre de réglementations qui font que les produits sont issus de l'élevage lozérien, par exemple, ou transformés en Lozère majoritairement. Et ensuite, ils ont ce label de Lozère. Et bénéficie d'outils de promotion et d'une mise en avant, notamment à travers le site Plaisir Authentique, qui est un site internet qui recense ses producteurs, qui recense pas que cela, puisqu'il y a aussi les tables gourmandes, les itinéraires gourmands que l'on peut faire à travers la Lozère. Donc c'est un label lozérien de qualité pour promouvoir les produits du terroir.
De Lozère qui vient, avec l'appui du département, de réaliser une magnifique semaine du goût à Marvejols avec un programme qui était alléchant et je pense qu'il a dû ravir les écoliers.
Absolument.
Et les élèves, puisqu'il y avait aussi les collèges, lycées et lycées agricoles qui étaient associés à cette semaine.
Oui, je crois qu'il y a eu un véritable engouement pour cette belle semaine du goût en Lozère.
Alors l'objectif, c'est d'avoir des touristes de temps en temps, de passage, etc. Ou c'est vraiment les faire venir s'installer, puisque je crois qu'il y aura un stand aussi Lozère Nouvelle Vie, donc c'est des offres d'emploi, c'est sur du long terme.
Voilà, les deux. Je dirais les deux, mon capitaine. L'idée, c'est de susciter l'envie aux Montpelliérains et pas que, puisque on a fait une communication plus large que Montpellier, mais de les inciter à venir découvrir le territoire pour un court séjour. Un week-end, une semaine ou les vacances d'été. Et puis également, on cible effectivement les porteurs de projets qui auraient envie de venir s'installer en Lozère. Et on leur propose de façon très concrète, sur le stand, ils pourront trouver des offres, que ce soit des offres de reprise d'activité, des offres d'emploi, des offres de formation également. Donc il y aura un panel très large et surtout les représentants du réseau Accueil Nouvelle Population qui est coordonné par le département mais qui associe les trois chambres consulaires, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, qui associe l'ERDI, la maison de l'emploi, qui associe les pays, enfin les associations territoriales qui sont partie prenante également de ce réseau Accueil, la SAFER, enfin bref, il y a de nombreux partenaires qui sont dans ce réseau et qui ont pour objectif d'accompagner les porteurs de projets, que ce soit dans leur projet de vie, ça peut être tout simplement les aider à trouver un logement, le premier logement quand ils arrivent, ou leur projet professionnel, comme je vous le disais, d'une reprise d'activité, d'une formation ou d'un emploi. Voilà. Donc ce sont des choses très concrètes qui leur seront présentées sur le stand effectivement du département, puisqu'on veut offrir une palette très large et une visibilité sur ce qu'est la Lozère.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les quatre, je crois, si je dis pas de bêtises, quatre ambassadeurs qui seront à vos côtés?
On en a plus que quatre même. On peut s'en féliciter. On a
effectivement. Il y en a 12 par cru.
Il y en a 12 par cru. On a commencé
parmi les îles.
Voilà. On a commencé en 2014 et on en est à 36. L'objectif, c'est d'arriver à 48. Si vous savez compter comme moi. Donc 48 ambassadeurs.
48.
Ah bon. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur ces personnes et sur leur désir aussi d'être ambassadeurs, parce que c'est une démarche volontaire de leur part d'être ambassadeurs de la Lozère pour promouvoir le territoire et nous accompagner quand on fait justement des manifestations comme celle-ci. Et sur les ambassadeurs 2012, on les classifie un peu de VIP, ça n'a rien de péjoratif par rapport aux précédents, qui sont tout aussi importants, mais ils ont des profils un petit peu plus différents. On a par exemple le doyen de la faculté de médecine, Jacques Bringer, qui est originaire de Lozère, qui est ambassadeur et qui sera avec nous vendredi. On a le chef Éric Sellier, qui sera également
de la maison de la Lozère
à Montpellier, tout à fait. On a Pierre-Olivier Prouez, qui est aussi un chef lozérien dont la famille est connue du côté d'Aumont. Voilà, qui, j'y reviendrai également, qui va nous proposer des animations le samedi spécifiquement. On a Jean-Claude Gallo de Ecopress, le groupe Objectif, enfin le groupe Objectif et qui notamment le magazine Objectif Languedoc-Roussillon. Et on a deux acteurs, donc Lionel Astier, qui est pour certains ceux qui connaissent la série Kaamelott, le père du roi, voilà, qui sera présent, qui est ambassadeur et qui nous suit également sur beaucoup de manifestations.
Il a écrit des camisards, je crois.
Voilà, c'est absolument, ça. Qui est venu faire trois représentations cet été en Lozère.
Et qui avait la petite série de France 2, là, avant la soirée, puisqu'il est un des grands-pères de cette série.
Oui, c'est ça, aussi.
J'ai perdu le nom, Vie de famille.
Il y en a plusieurs, là, je les mélange un peu, mais...
Voilà. Et on a Jean-Luc Bourras, qui est un comédien, acteur également, qui sera, qui nous ont confirmé.
Truculent.
Oui.
On va pas s'ennuyer.
Voilà.
Et d'ailleurs, les animations, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end
là.
Alors,
ça nous donne envie.
Ça vous donne envie, tant mieux.
Est-ce que les Lozériens peuvent descendre?
Mais bien entendu, bien entendu. Vous savez qu'il y a des territoires qui organisent des bus, qui se mobilisent et qui organisent des bus pour descendre sur cette manifestation, pour nous encourager, nous soutenir et être présents dans cette démarche. Je pense qu'il faut que tous les Lozériens se sentent mobilisés sur cette démarche de promotion en dehors du territoire. Et donc, on a effectivement des Lozériens qui descendent et tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus pour nous rejoindre pendant ces deux jours. Sur les animations.
Oui.
Alors, on a essayé de travailler un petit peu sur différents publics. Et on a, par exemple, travaillé à la Fédération des foyers ruraux de Lozère pour proposer des contes lozériens. À deux types de publics, un public enfant et un public adulte.
En lien donc avec Contes et Rencontres, j'imagine.
Alors, ils ont choisi des contes, je ne sais pas s'ils sont en lien direct avec Contes et Rencontres, ce qu'ils ont déjà fait, mais on leur a demandé le cahier des charges au départ, c'était des contes à 24 avec le territoire. Et notamment sur la journée du vendredi, on a contacté les centres de loisirs, puisque ça ne vous aura pas échappé, c'est le début des vacances. Les enfants sont pour la plupart dans des centres de loisirs. Donc on les a contactés en leur proposant de participer à des petites séances de contes d'une demi-heure qui ont lieu le vendredi et le samedi, par contre, et qui, sur ces demi-heures, viendront écouter un conte sur la Lozère. Le premier, c'est qui est dédié aux enfants, c'est Numa, jeune berger de Lozère. Tout un programme. Et donc, on a deux groupes qui viennent. Et hier, on a rencontré également d'autres personnes qui, en leur parlant, on nous dit « Mais nous aussi, on veut venir. Est-ce qu'il est possible encore de s'inscrire ?» Et par contre, le samedi, ce sont des comptes un peu plus tout public et qui sont ouverts à tout un chacun du moment où vous avez une petite demi-heure pour vous installer confortablement.
Ça a lieu aussi sur l'esplanade ou c'est dans un autre
lieu?
Ah non,
on a tout concentré sur l'esplanade. L'idée, c'est de véritablement créer une animation qui soit focalisée autour des exposants et autour, pour ne pas perdre en visibilité et en vie au sein de ce village sur la place de la Comédie.
Okay.
Ça, c'est une des premières animations, je n'ai pas fini.
Ah, les autres.
Les autres. Donc ensuite, on a également travaillé avec l'entente interdépartementale de Causses et Cévennes pour présenter un petit peu ce qu'est le patrimoine UNESCO, parce qu'on en entend beaucoup parler. Et l'idée, c'était d'expliquer aux gens ce que ça veut dire le patrimoine UNESCO, ce que ça implique et pourquoi la Lozère a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a deux conférences qui sont organisées. Pareillement, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Il y a un planning des animations qui vont se succéder tout au long de la journée. Et ensuite, on a demandé également au Parc national des Cévennes de venir faire une intervention sur un des animaux emblématiques de Lozère qui est le vautour.
Oh non, pardon. Allez, je sors, c'est bon.
Le parc à loups sera présent.
J'ai vu ça, oui.
Voilà. Mais c'était...
Avec des loups gentils.
Des loups très gentils, voilà.
Je ne sais pas si
des
un loup peut être gentil.
Des loups, il n'y en aura pas sur le stand, mais il y a le parc à loups. Mais on a choisi de faire intervenir sur les vautours qui ont été réintroduits au sein du parc et qui sont toujours un petit peu fascinants, surtout pour des Montpelliérains. Donc il y aura une conférence sur cette thématique-là. Et puis, voilà, au niveau des conférences à proprement parler. Je vous le disais tout à l'heure, on a les rues de Boycrou. On a souhaité apporter un petit moment culturel et festif auxquels les gens vont pouvoir participer. Donc ils viennent avec quatre ateliers de leur fantasmatique kermesse, un jeu de force, le jeu de ballon avec le plouf dans l'eau.
Oui, j'allais dire, vous allez mettre les Montpelliérains à l'eau. Hein.
Il va faire beau en principe, donc
on a bien.
Ce sont pas les Montpelliérains qui vont.
Non, c'est les rugby crew généralement qui se retrouvent bien mouillés.
C'est les Montpelliérains qui nous mettent à l'eau. Voilà. Donc il y a deux autres ateliers. Je n'ai pas encore le détail de ce qu'ils vont nous proposer. Et puis il est aussi convenu qu'ils fassent des déambulations dans l'allée de la manifestation, mais également sur la place de la Comédie pour inciter les gens à venir nous rencontrer pendant ces deux jours.
Promesse de ne pas s'ennuyer en tout cas.
Promesse de ne pas s'ennuyer.
Cette équipe.
Non, mais c'est pour ça qu'on les a fait venir pour encore une fois pour pas ne faire qu'un marché. On voulait véritablement que ça soit comme un village qui revit et avec toutes ses activités. Et puis on a également une autre animation qui est non des moindres. On propose aux Montpelliérains de participer à une soirée grillade le vendredi soir. Et là, on s'est appuyé sur Parole Gabale. Alors, je ne sais pas si...
Oui, c'est la fête des pâturages.
Voilà, c'est entre autres.
Entre autres,
voilà, ce sont des agriculteurs qui se sont regroupés pour promouvoir leurs produits à travers des animations qu'ils font sur des grosses manifestations. On les a donc sollicités pour venir nous faire une petite soirée grillade le vendredi soir sur l'esplanade, toujours. Donc, toujours même au milieu de tout le monde, on reste groupés. Et avec en proposition des viandes de Lozère, notamment grillées à la plancha, un aligot fait sur place, des fromages lozériens, gâteau à la châtienne, que du très léger, et le tout accompagné par les vins sud de France qui nous accompagnent également sur cette manifestation. Et alors ceux qui veulent participer à cette soirée grillade, il faut réserver ses places dès le vendredi dans la journée sur les stands de Lozère. Nos amis de Parole Gabale seront présents pour vendre des tickets. Le prix est à 15 €,
c'est relativement
voilà, très raisonnable pour Montpellier. Donc voilà, et on aura également, pendant que nos amis des Rude Boy Crew se poseront un peu, puisqu'ils auront travaillé toute la journée, un groupe Notambule, qui est un groupe de Lozériens, qui vont descendre avec leur vélo et leurs instruments à musique, le tout avec des déguisements assez clownesques, dirons-nous, pour faire l'animation pendant la soirée. Ça, c'était le menu du vendredi. Relativement copieux. Et le samedi, on reprend les comptes, les conférences, comme je vous l'ai expliqué préalablement. Et on a l'idée de faire un selfie avec les Lozériens de Montpellier. L'idée, c'est de leur dire, vous êtes Lozériens de cœur, vous êtes Lozériens d'origine, vous aimez la Lozère. On se donne rendez-vous le samedi matin à 11 h, toujours au sein des exposants, et on va essayer de faire une grande photo
bien,
de groupe.
On va pouvoir le tweeter, ça.
Voilà.
D'ailleurs, vous pouvez, j'en profite pour vous dire que vous pouvez réagir à tout ce qui est présenté là aujourd'hui en utilisant le hashtag LozActuali ou le compte Twitter 48FMMind.
Bien joué, Adeline.
Si vous voulez relayer.
Merci.
Au niveau, on sait que le département a des petites ressources, alors costaud, mais c'est le département qui prend en charge tout ça, parce que animer 500 mètres carrés, c'est un sacré challenge quand même. On sait que des grosses villes utiliseraient certainement une sous-traitance.
Alors,
ou...
on a fait comme les grands, parce que effectivement, d'un point de vue logistique, on ne pouvait pas tout faire. Même si ça fait 6 mois qu'on y travaille d'arrache-pied.
Beaucoup, certainement.
On en fait pas mal. On descend avec nos petits bras. Donc, on va en faire pas mal. Mais il y a véritablement des structures sur lesquelles... Et puis, il y a aussi toute une réglementation.
Bien sûr.
Qui font qu'on ne peut pas piloter ça sans avoir une connaissance. Donc, on s'est appuyé sur un prestataire qui s'occupe de gérer tout ce qui est l'installation des tentes, les règles de sécurité, l'installation électrique, ben, tout ce qui est le bac, ce qu'on ne voit pas avant une belle manifestation, mais tout ce qui est nécessaire en amont, demander des autorisations de sécurité, parce qu'il faut savoir que Montpellier, comme beaucoup de grandes villes, sont en vigilance renforcée, suite aux événements de Nice notamment. Donc il y a des contraintes supplémentaires. Alors c'est pas très esthétique, mais le mot est un peu fort, mais on nous oblige de barriérer l'ensemble de l'enceinte de la manifestation avec des contrôles d'accès. Donc il faut qu'on essaie de rendre ça le plus
élégant possible.
Absolument. C'est le mot est exact, le plus élégant possible. Mais donc on s'est appuyé sur une structure qui a l'habitude de faire tout ce genre de travaux en amont de la manifestation.
Alors que cette manifestation n'est pas encore arrivée, est-ce que vous projetez déjà vers la future ?
Ah oui.
Donc c'est dans quelle ville l'an prochain ?
Ah, on attend. on a adressé les courriers aux demandes.
Il n'y a pas un passage de relais comme à la fin des JO ?
Non, quand on sera un peu plus rodé, pour la prochaine édition, c'est pas une mauvaise idée, ça. on simulera un passage de relais, effectivement, avec la ville suivante. Non, mais là, on sait déjà, on prépare déjà 2017, parce que ça arrive très vite. Et on a sollicité deux villes, Toulouse et Lyon. Toulouse sur la place du Capitole et Lyon sur la place Bellecour. Donc, on attend les réponses des mairies, puisqu'en l'occurrence, c'est elles qui accordent leur feu vert pour ce type de manifestation. Alors, autant je sais que Montpellier est très ouverte à ce type de manifestation, autant les autres, je ne sais pas du tout. Donc, on va voir la réponse que l'on a. Mais on espère pouvoir s'installer prochainement sur l'une de ces grandes places.
Parfait. En tout cas, en attendant, c'est ce week-end à Montpellier. Est-ce que
C'est vendredi et samedi. Attention, vendredi. Le week-end étant un peu... Ouais. C'est vendredi tranqué. Et samedi. Hein.
Vendredi dès 10h jusqu'à 22h30 et samedi de 10h à 19h.
Parfait. Est-ce qu'on peut se renseigner sur un site internet?
Alors, on a le site internet lozère.fr. Dès la page d'accueil, il y a les informations. Il y a la page Facebook du département également, où vous retrouvez toutes ces informations sur l'événement, le programme, qui est-ce qu'on peut rencontrer.
Merci beaucoup, Valérie Cogoluen, d'avoir répondu à nos questions. On va passer maintenant à la chronique d'Éric et Adeline sur les MOOC, juste après la virgule. Merci, Valérie.
Merci à vous.
Alors, la chronique sur les MOOC va prendre peut-être un petit peu de retard puisqu'on a oublié de parler de l'espace détente, si j'ai bien compris.
J'ai oublié qu'après tous ces efforts, il fallait quand même un petit moment de détente.
Après la Ligo surtout.
Ou avant
aussi,
pour se préparer.
C'est une marque de fabrique lozérienne de plus en plus, donc il ne faut pas...
Voilà, donc on a également un espace détente qui est dédié à la détente, comme son nom l'indique, mais où les stations thermales proposeront un massage un peu particulier avec une table de massage avec un matelas en eau qui vous masse lui-même. Donc vous vous installez, il n'y a plus rien à faire, vous vous faites masser tranquillement.
C'est génial ça.
C'est génial.
Ouais, voilà. Je n'ai pas pu le tester aujourd'hui là.
Il y a déjà une liste d'attente sur les... Voilà.
J'imagine.
Voilà. Non mais c'était important, on a essayé véritablement de valoriser toutes les filières lozériennes à travers cette manifestation.
Avec des bonnes huiles essentielles fabriquées en Lozère.
Absolument. Essentiaga qui sera également là pour les huiles. Les thés d'Aubrac ou une petite bière de Lozère. Le bonheur, quoi.
Parfait. Bonheur. On pourra découvrir tout ça. C'est ça.
Qui est dans le pré sur la comédie.
Voilà.
Merci beaucoup.
En MOOC ou en MOOC pas?
En MOOC. On va MOOCer. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce mot, mais c'est pour le coup, on ne va pas vous parler de la même chose aujourd'hui.
Non, on va changer.
Vous êtes taquins,
voilà.
Tous les deux.
On essaie de perdre nos auditeurs, en fait.
Il y a interview Il y a interro à la fin de l'année interro. Pour les auditeurs.
Il y a interro entre MOOC et MOOC. Si vous avez bien suivi tous les magazines, de quel MOOC on parle. Mais vas-y, Eric, je te laisse présenter de quoi on va parler aujourd'hui.
Donc, en fait, comme on vient de le voir, donc la Lozère, le département, essaye de développer son image. Et par contre, un des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est justement l'accès à la formation, qui est assez compliqué, vu qu'on peut pas... C'est pas comme dans les grandes agglomérations, justement. On trouve pas toujours tous les thèmes qu'on voudrait voir abordés. Il faut avoir soit les moyens de se déplacer pour suivre une formation. Donc, c'est vrai que ce qu'on peut faire aussi, non, c'est d'essayer de trouver des formations par correspondance. Donc après, ça a un certain coût. On trouve pas forcément ce qu'on a envie de voir, d'apprendre, en fait. C'est un coût. Il y a aussi... Donc c'est très gourmand en papier. Il y a des formations... Il n'y a pas une diversité de sujets qui soit très importante. Et ça permet pas... C'est diplômant, mais ça permet pas forcément un enrichissement personnel. Donc après, justement, quand on regarde les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, j'ai découvert la possibilité de trouver des formations sous forme de MOOC. Et donc je me suis dit justement à ce moment-là que j'étais pas le seul à avoir ce besoin justement de formation et d'échange.
Ouais. Alors du coup justement, je pense que pour la majorité des gens qui nous écoutent et nous aussi, et peut-être vous aussi Valérie, je sais pas.
Tout à fait.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un MOOC?
Non, pas
alors
du
là
tout,
pour voilà. Le coup c'est le MOOC, MOOC.
Voilà, hein, c'est
on
ça.
On est bien d'accord, j'ai bien suivi.
Tout à fait. Donc le MOOC.
De faire ma bonne élève pour
t'as bien suivi. Voilà. Un bon point, t'auras droit à un massage sur le stand si tu descends à Montpellier. Un MOOC, M-O-O-C, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on en entend parler, c'est un peu un mot qui fait buzz en ce moment. Alors, c'est un mot qui vient de l'anglais, vous m'excuserez l'accent, mais ça vient du mot Massive Online Open courses, qui veut dire en fait des cours ouverts et à distance sur Internet, gratuits et donc ouverts à tous. Donc en français, on pourrait appeler ça un CLOM, donc un cours en ligne ouvert et massif. Mais bon, comme le mot est moche et qu'au final, le mot MOOC a fait déjà pas mal de buzz, on a décidé de garder ce mot-là. Et puis du coup, l'idée, c'est en effet que tous les gens qui le souhaitent peuvent s'inscrire à ces cours ouverts. Donc on n'a pas de frais d'inscription. Et puis pour le coup, il y a une diversité de matières disponibles et de cours possibles à suivre qui est assez, assez phénoménale. C'est un phénomène qui est né aux États-Unis, dans l'université du MIT, et où du coup, c'est eux qui ont proposé initialement des cours sous forme de vidéos que les étudiants pouvaient suivre en plus ou en complément des cours qu'ils suivaient à la fac. Et donc c'est parti de là le phénomène. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est des plateformes en ligne, donc des sites internet sur lesquels vous pouvez vous inscrire et vous avez tout un panel de formations disponibles. Et l'idée, c'est que du coup, il y a des interactions à la fois entre les étudiants via des forums et à la fois avec les enseignants via des quiz, des petites évaluations et des jeux en ligne pour passer les différents niveaux du coup dans la formation et valider un certain nombre de compétences.
Ça peut être validant au final ?
Alors, ça peut être validant.
Alors, ce n'est pas diplômant. Il peut y avoir... c'est-à-dire qu'il y a une certification comme quoi on a bien suivi le MOOC, mais c'est pas... ça commence à être reconnu, en fait, dans certains métiers. Parce que les MOOC, il y a certains MOOC qui commencent à être vraiment très réputés. Par exemple, l'année dernière, un des MOOC les plus suivis, c'était le MOOC de l'AFPA. Le MOOC culinaire de l'AFPA. Et donc, c'était vraiment...
C'était absolument génial.
C'était intégré dans des... ouais, voilà.
Tu l'as suivi ?
Alors, je m'étais inscrite et j'ai suivi les premiers cours et j'ai été dépassée parce qu'il y avait un gros boulot quand même à fournir hebdomadairement. Mais c'était... franchement, c'était super, quoi.
Oui, voilà, donc les gens ont pu l'intégrer dans leur parcours de formation,
oui,
en fait.
Oui, j'avais vu qu'à la
c'était
fin...
C'était vraiment très... Ouais, donc voilà. Après, c'est pas encore diplômant. C'est pas comme justement les formations à distance dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est pas encore diplômant. Il y a
ça
des certifications.
Venir, donc, si ça s'implante vraiment...
Donc voilà, on a dit par contre que c'était gratuit, mais c'est vrai que par contre, les certifications, souvent, par contre, elles sont payantes. Ça, il faut le... C'est dès l'inscription qu'on le mentionne, qu'on a envie d'une certification, mais après, oui, voilà...
Et puis l'idée aussi, c'est que il peut y avoir en même temps des centaines de milliers d'étudiants qui suivent cette formation. Et c'est vrai que du coup, en effet, sur la question aussi des territoires, mais on en reparlera aussi tout à l'heure en fin de chronique, mais ça permet aussi pour des gens dans des territoires un petit peu éloignés de certains types de formations très spécifiques, de quand même suivre ces outils-là et de développer des compétences. Alors même si c'est pas certifiant, ça permet quand même de valoriser, si on a suivi d'un MOOC, celui dont tu parles, qui était un peu costaud aussi, ça, quand même, si on termine et si on arrive au bout, ça valide un certain nombre de compétences.
Voilà, il suffit d'avoir une connexion Internet, en fait. Avec une connexion Internet, on peut s'inscrire à un MOOC et on peut suivre la formation. Donc c'est vrai que c'est... voilà, c'est la formation à portée de tout le monde. Et justement, voilà, on se moque de la géographie. Il est possible de suivre des cours de n'importe où. Donc on peut très bien avoir sur la même formation. Donc... un chroniqueur ou un auditeur de 48 FM, une étudiante chinoise. Donc voilà, il peut y avoir vraiment... c'est tout le monde qui peut être, qui peut suivre n'importe quel MOOC, en fait. Après, il faut juste être bilingue, trilingue, polyglotte.
Et avoir suivi d'autres MOOC.
Et puis du coup, c'est vrai qu'il existe une quantité infinie, presque, au final, de matière. Moi, je sais que... Il y a une équipe à Florac aussi, avec l'INRA de Montpellier, qui développe un MOOC sur la chimiométrie, par exemple. Quelque chose dont on a très, très spécifique, mais au final qui intéresse plein de monde partout dans le monde. Et ils sont un peu devenus aussi, du coup, référence avec ce MOOC-là. Donc voilà, c'est vrai qu'il peut être construit presque, du coup, de partout et suivi de partout.
Oui, tous les sujets peuvent être abordés. Il peut y avoir la physique quantique, le jardinage... l'économie collaborative, vraiment tout est possible.
Sur des émissions de radio.
Absolument.
C'est ça.
Tout à fait.
Et justement, pour pouvoir montrer tout ça, on a contacté Xavier de Masneau, dont tu peux peut-être nous parler un tout petit peu.
Oui, alors Xavier de Masneau, c'est quelqu'un qui connaît bien le territoire de la Lozère, parce qu'il est déjà venu notamment dans le cadre d'un événementiel qui a été organisé par la Maison de l'Emploi et Lozère Développement autour des thématiques du télétravail et du coworking. C'est quelqu'un qui est fondateur d'un site qui s'appelle The Village, qui travaille justement autour de toutes ces questions d'usage numérique et de travail à distance, qui est aussi fondateur d'un site qui s'appelle adverbe.com et qui est le créateur d'un MOOC qui va sortir là très très prochainement, d'un MOOC qui s'appelle le MOOC Travail Flexible et qui du coup permet de travailler toutes ces questions autour du télétravail, du travail à distance, à la fois côté salarié potentiellement intéressé à passer en télétravail ou aussi côté employeur pour développer ce type d'activité au sein d'une entreprise et permettre à des salariés du coup de travailler à l'extérieur des murs de l'entreprise, depuis chez eux, depuis des territoires ruraux. Donc voilà, mais je crois qu'il nous en parle un petit c'est peu. Tu as pu l'interviewer justement et il t'a raconté tout ça en détail.
On a pu l'appeler donc la semaine dernière puisqu'il pouvait pas être, il était pas sûr de pouvoir être présent en direct avec nous aujourd'hui. Donc on l'a appelé la semaine dernière et pour lui demander justement de nous expliquer son MOOC. Et un peu les MOOC en général, et son, en particulier sur, son MOOC sur le travail flexible. Donc voici ses réponses.
Alors c'est une formation qui vise à faire connaître et à aider à la mise en place des nouvelles formes de travail, en particulier le télétravail, mais qui va aussi s'ouvrir à tous les aspects connexes de ces nouvelles formes de travail, c'est-à-dire le coworking, le phénomène de développement des tiers-lieux, le phénomène de développement des travailleurs indépendants, qui sont finalement pas toujours très bien connus et pas toujours bien connus des entreprises. Il y a beaucoup d'indépendants en France, il y en a très peu qui utilisent encore les tiers-lieux alors qu'ils peuvent en tirer un grand bénéfice. Il y a relativement peu d'entreprises qui ont officialisé une démarche de mise en place du télétravail, alors qu'on sait qu'il y a à peu près 20% de la population active aujourd'hui qui travaille à distance, en mobilité, et pas toujours dans un cadre qui a été pensé, organisé et négocié par l'entreprise.
Et pourquoi utiliser justement ce MOOC pour diffuser la formation ?
Le MOOC, c'est un moyen de toucher beaucoup de monde à la fois. Aujourd'hui, on a 3500 inscrits. Alors qu'on a à peine commencé à communiquer sur le sujet. On devrait arriver, j'en crois nos partenaires de YouNo avec qui on publie cette formation en ligne, à doubler ce nombre d'ici le 24, d'ici le démarrage. Dans la dernière semaine, les gens se précipitent pour s'inscrire parce qu'ils voulaient le faire puis ils l'avaient pas encore fait. Donc on va arriver probablement à toucher 5, 6, 7 000 personnes. Ce qu'on ne pourrait jamais faire avec des formations en présentiel normal.
Et je crois savoir que vous êtes attaché donc à la notion de territoire et que vous connaissez le nôtre, justement, territoire de la Lozère.
Oui.
Est-ce que vous croyez que, justement, votre MOOC il peut intéresser les Lozériens ?
Oui, bien sûr. Le MOOC peut intéresser tous les ruraux en général et les Lozériens en particulier, tout simplement parce que c'est un moyen d'accéder à de la formation à distance. Le problème quand on est dans un territoire un peu isolé, c'est que si on veut aller dans un centre de formation, on doit aller dans une grande ville et que on a 2, 3, 4 heures de déplacement et que c'est pas toujours très facile, ça coûte cher. Là, c'est un MOOC gratuit, donc il est vraiment ouvert à qui veut. Il y a des options payantes, en particulier pour les entreprises si elles le souhaitent, mais on peut suivre gratuitement ce MOOC. Donc quand on est dans un territoire rural, on peut depuis chez soi suivre une formation. Alors il y a notre MOOC, mais il y a des milliers de MOOC, tous plus passionnants les uns que les autres. Moi j'aimerais bien en suivre plein, mais j'ai jamais le temps. Je suis inscrit à 2-3 MOOC et c'est vraiment passionnant. Et je pense que c'est un atout pour ce type de territoire, ça c'est sûr.
Et là, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des éléments sur la particularité de vos intervenants ?
Alors on a une vingtaine d'intervenants. On a choisi des intervenants, d'abord qui étaient des experts, soit qui connaissaient le sujet, comme Jean-Emmanuel Rey, qui est professeur de droit social à la Sorbonne, à Paris-la-Sorbonne, donc qui est un grand expert du télétravail, soit qui avait réalisé ou mis en place le télétravail, comme les responsables du télétravail chez EDF, au Conseil départemental de l'Orne, le président du Conseil départemental de l'Orne, le DRH du groupe AGS, la référente télétravail d'Orange. Donc ce sont des gens qui ont une pratique, qui l'ont déjà fait chez eux, qui en connaissent bien sûr les avantages et les bénéfices, ou alors qui travaillent à diffuser ce qu'ils ont fait autour de, par exemple c'est le cas de la référente télétravail d'Orange, Martine Bordonnet, qui milite beaucoup pour faire connaître ce mode d'organisation à la fois à distance, nomade, et tous les bénéfices que ça peut engendrer. Et puis on a aussi des intervenants qui sont spécialisés dans les indépendants ou les espaces de coworking, comme le créateur de Mutinerie, Antoine Vandenbroek, Mutinerie qui est un des espaces de coworking mythiques en France, qui est un des premiers à Paris, qui porte vraiment une vision du coworking qui, avec laquelle on est en phase. Donc on a toute une palette de gens qui ont en commun d'être des experts, mais pas forcément les experts qu'on entend tout le temps.
Et est-ce que vous pouvez me rappeler comment on fait pour s'inscrire à votre MOOC ?
Alors c'est assez facile, on a une page d'inscription www.travail-flexible.com. Alors on l'a appelé justement travail flexible et pas télétravail parce que pour nous c'est un sujet beaucoup plus large que le télétravail. Ça concerne le développement local, en particulier le développement rural. Ça concerne le travail des indépendants, ça concerne les ressources humaines ou même la stratégie d'entreprise. Et puis, il y a un acteur dont on n'en a pas encore parlé, ce sont les services publics, hein, les collectivités territoriales, les services de l'État. J'avais moi-même participé à un pilote pour accompagner la préfecture de Lozère, en particulier la DDT de Lozère, au passage en télétravail. Donc on voit qu'il y a tout un mouvement de développement du télétravail dans les services publics, tout simplement parce que c'est porteur de qualité de vie au travail et de meilleurs services rendus aux usagers.
Meilleurs services rendus aux usagers.
Donc voilà, comme on le voit, là, on a un très bon exemple d'un MOOC qui va commencer donc, très prochainement. Après, en plus, l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on peut être jusqu'à des milliers à suivre le même MOOC et à pouvoir interagir. Donc on est voilà des milliers à penser la même chose, donc en plus on peut faire évoluer finalement le contenu pédagogique en intervenant de la formation. Là, moi, j'ai suivi un MOOC sur la photographie justement, donc je suis pas devenu un professionnel de photographie depuis, mais j'ai quand même appris certains rudiments. Et le fait de pouvoir intervenir comme ça, j'ai pu poser des questions aux autres personnes qui participaient. Et j'ai par exemple demandé, ah, mais tiens, quel réglage toi vous feriez pour un portrait? Et voilà, on m'a donné quelques indications sur des réglages pour un portrait. Alors qu'ici, on n'a pas forcément des formations photo. Je sais qu'il y a un club photo, mais ils sont pas forcément là pour former les gens, mais pour faire un club. Et donc là, c'est vrai que ça m'a permis, moi, d'avoir une première approche de la photographie, par exemple.
Voilà, je trouve que l'intérêt par rapport, alors le photoclub de Mende fait de la formation, il l'a fait très bien, mais c'est vrai que c'est tous les mardis soirs, il faut être dispo à un moment donné. Le MOOC permet d'être dispo quand on est dispo. Enfin, on peut suivre le cours de la semaine ou de la journée au moment où ça nous va bien, et ça c'est vraiment hyper pratique, quoi.
Oui, ça pourra jamais rattraper les échanges en direct qu'on peut avoir, mais c'est vrai que ça apporte autre chose quand on peut pas avoir justement ces échanges en direct. Tout à fait. Ouais. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien.
Et vu le grand vide de la télé certains soirs, des fois, il vaut mieux être inscrit à un MOOC.
C'est ça.
Ça peut occuper quelques heures.
Exactement. Ouais,
et puis le MOOC voilà, permet aussi un développement
je
personnel.
Je crache sur la télé, Guillaume n'est pas là, j'en profite.
C'est vrai qu'on n'a pas de rubrique télé, du coup, aujourd'hui.
C'est ça, tout à l'heure, je parlais des formations à distance. Les formations à distance, c'est souvent pour en quête d'un diplôme ou de quelque chose. Là, on n'est pas en quête d'un diplôme. C'est, ça peut être justement pour des intérêts personnels. Ça peut être pour sa culture générale. C'est vraiment l'enrichissement. Voilà. C'est l'enrichissement à portée de tous. Voilà.
Et pour trouver tout ça, on va sur le site MOOC. Il y a un site qui regroupe tout d'un coup ou
il y a plusieurs sites.
Ouais. Il y a plusieurs sites. Il y a un site qui s'appelle FUN, par exemple, qui est un site de MOOC francophone. Sur lequel il y a plein de ressources de MOOC. Après, il y en a plein d'autres, d'ailleurs. Si vous tapez MOOC sur Internet, vous allez avoir plein de plateformes qui remontent. Et pour le MOOC de Xavier de Masneau, je crois qu'ils ont plein d'infos et un site dédié sur Travail Flexible. Et il y a sur Facebook aussi, vous retrouverez des infos.
C'est ça. Et après, en plus, on peut avoir des informations sur les intervenants. Donc, a priori, tous les intervenants, pour le moment, c'est quand même des gens compétents. Donc voilà, on peut se fier à la formation.
Oui, voilà, j'allais demander comment on arrive à savoir si c'est vraiment sérieux ou pas.
Mais là, par exemple, pour son nom qu'il nous a donné là dans son interview, les noms des personnes et leur métier, leur profession. Donc voilà, on voit que derrière, ce sont des personnes qui sont compétentes dans leur sujet. Ouais.
Parfait, merci beaucoup à vous deux, Eric et Adeline. Mais Adeline, tu vas encore rester avec nous puisqu'on va passer à la chronique hashtag de la semaine. À de suite.
Et voilà, c'est parti pour la chronique hashtag de cette semaine. Donc, un petit tour des réseaux sociaux et notamment de Twitter. Alors, j'avais prévu de vous parler d'un nouvel outil qui s'appelle Periscope, mais comme on a été très bavard aujourd'hui, je pense que je garderai ça sous le coude pour la prochaine fois. Et puis, du coup, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé sur la planète Twitter cette semaine.
Bah, c'est bien, t'es comme Axel Lafont, toi. Tu hacks sur Twitter, pour ceux qui ont vu son spectacle. Elle fait un petit cours de réseaux sociaux, mais particulièrement de Twitter. Elle a l'air de bien aimer Twitter.
Ouais.
En direct du Théâtre de Mende, et elle a pas hésité à retweeter dès la fin de son spectacle. Donc, je trouve ça assez sympa. Ouais. On n'a pas trouvé, hein, on voulait passer un extrait du spectacle pour ceux qui l'auraient manqué ou qui auraient adoré. Et on ne l'a pas encore trouvé sur...
Oui, c'est vrai que je suis une adepte de Twitter. En tout cas, sur cette chronique, je trouve que c'est sympa parce que ça fait un petit tour d'horizon des tendances. Après, justement, la prochaine fois, on parlera aussi d'autres outils parce qu'il existe plein d'autres réseaux sociaux et d'autres outils qui sont sympas à découvrir. Mais du coup, là, pour cette semaine... Il y a le dernier mag, j'étais un petit peu négative sur ma vision de l'actu.
Mais ça se fait pas.
Bon, cette semaine, on est sur du hashtag un peu moins rigolo, mais bon, voilà. Le hashtag qui est beaucoup sorti hier soir, c'est BASF. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, il y a eu l'explosion d'une usine en Allemagne, un gros groupe chimique allemand, et donc du coup, il y a eu un incident dans une usine en Allemagne hier, donc il y a eu beaucoup de retweets d'actu avec le hashtag BASF. Après, c'est très sympa aussi, c'est coïncidence ou pas, mais il y a eu un hashtag télétravail hier, donc un lien ou pas avec le MOOC de Xavier de Vesno, je sais pas, mais en tout cas, beaucoup d'actu sur le télétravail hier. Et puis, un hashtag aussi un petit peu culturel avec un hashtag Phil Collins pour annoncer son retour en concert en France en 2017. Voilà pour le tour d'horizon un petit peu rapide sur ce qui s'est passé en France. Et puis en Lozère, en vrac, plusieurs hashtags. Alors un hashtag sur le hashtag FTTH, qui veut dire donc fibre, voilà, fiber to the home, qui relayait en fait un peu l'actu de la semaine dernière sur l'installation de la fibre optique sur Mende. Et puis un hashtag...
Alors, je peux dire un petit mot?
Bien sûr, voilà, si tu étais ou si tu as suivi l'actu.
Le déploiement par Orange, par l'opérateur historique, on va dire, de la fibre optique. Alors, en quatre phases. Hein, la première phase, les usagers pourront être connectés à la maison dès le mois de décembre, donc c'est tout de suite. Et un déploiement qui va s'étendre progressivement jusqu'en 2018. J'en parle et c'est sympa, on l'avait pas prévu, mais Orange va être partenaire de notre émission désormais, parce que je les ai rencontrés à cette occasion et ils ont accepté ce partenariat. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'Orange sera pas forcément l'opérateur choisi par les abonnés, puisque Orange déploie la fibre jusque dans les armoires de rue, les armoires de connexion, et à partir des armoires, tous les opérateurs qui le souhaitent, donc tous les autres concurrents d'Orange et Orange peuvent faire une offre aux usagers et aux particuliers mendois. Donc après, chacun choisit très librement en fonction des offres. Alors bien évidemment, ça a été précisé lors de la conférence de presse, il y a toujours des offres de démarrage très attractives. Donc pour ceux que ça intéresse, et franchement, moi j'ai découvert la fibre à Lyon... puisque ma fille s'y est installée là après le bac, ça n'a rien à voir et je vous la recommande vivement. C'est 50 fois plus de débit que ce qu'on peut avoir actuellement sur Mende. Donc pour ceux qui téléchargent ou qui jouent beaucoup, notamment avec les jeux vidéo et les effets spéciaux, c'est vraiment super.
C'est un outil qui deviendra en tout cas indispensable, ça c'est sûr.
C'est ça.
Mais renseignez-vous du coup, le lot 1 par rapport aux habitats. Hein. Le lot 1, c'est pour fin décembre, donc c'est assez rapide, vous pourrez voir pour les offres. Le lot 2, ça sera seulement 2017 et 2018 pour le lot 3, et y compris le centre-ville, cœur, boulevard, en fait, pour fin 2018. Puisque comme nous, on est proche actuellement là, de l'antenne relais, on n'a pas besoin, dans l'immédiat, d'avoir une meilleure connexion. On commence par le COS Doge, par exemple, pour le deuxième lot, etc., pour venir ensuite par le centre-ville, pour le centre-ville.
Tout à fait. Donc, voilà un zoom sur ce hashtag qui a pas mal tourné en Lozère la semaine dernière. Alors qu'il reprenait en fait ce qui s'est passé la semaine dernière.
Ça relie à ta chronique suivante qui a été beaucoup utilisée parce qu'en plus il y avait cette loi numérique qui était en discussion au Parlement.
En fait, il y a eu plein de hashtags en lien avec le numérique la semaine dernière. Du coup, j'en parlerai dans la revue de presse sur la loi numérique. Et puis aussi, étonnamment, alors là, vraiment, c'est le hasard des casquettes, mais pas mal d'hashtags aussi sur les assises, nationales de la médiation numérique qui auront lieu dans un mois. Et du coup, voilà, il y a plein de choses qui se percutent autour du numérique en ce moment. Donc voilà, on a pas mal de hashtags numériques sur la Lozère. Et quand même un aussi sur la reprise des eaux de Quézac. En tout cas, l'annonce du groupe OGE.
Ça a beaucoup retweeté, ça.
Ouais. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé sur Planète Twitter.
Super, merci beaucoup Adeline. On va enchaîner un petit peu qu'on déborde déjà. Ouais. On fait une pause musicale quand même pour arriver à la revue de presse d'Eric avec Bob Dylan. Il va nous expliquer tout ça. À de suite.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Dylan qui nous envoie à la revue de presse. Petite virgule, à de suite. Bob Dylan, pourquoi Bob Dylan, Eric ?
Donc voilà, justement, j'ai choisi Bob Dylan pour l'actualité. Déjà pour saluer l'artiste et à cause aussi de la polémique créée par son obtention du prix Nobel de littérature, donc la semaine dernière.
Qu'on n'est même pas sûr qu'il va aller chercher.
C'est
ou
ça.
Ou alors t'as la réponse peut-être depuis.
Non, j'ai encore regardé ce matin, il n'a toujours pas réagi publiquement par rapport à l'obtention du prix. Pourtant, il a eu des concerts depuis, il n'a rien dit sur scène.
D'accord, oui, c'est étrange ça, ouais.
Oui, donc c'est vrai qu'il voilà, y a toute une polémique là-dessus.
Oh, c'est le personnage, hein, mais...
C'est ça. Donc moi, je sais que, pour le coup, je l'ai entendu en direct. J'écoutais la radio à ce moment-là, donc je l'ai entendu en direct. Et donc la salle voilà, avait l'air stupéfaite à l'annonce de son nom. C'est-à-dire qu'ils attendaient... C'est vrai que, pourtant, on en parlait depuis plusieurs années quand même, que Bob Dylan, il était dans les tuyaux. Mais voilà, ça restait toujours à la marche. C'était jamais dans les favoris, voilà. Mais, ouais. Donc là, c'est vrai que ça a été à la surprise générale. Donc voilà, j'ai juste voulu mettre un petit mot là-dessus pour une fois. En plus, là, on va plus parler de... C'est le côté poésie. Donc c'est vrai que c'est un genre littéraire qui n'est pas souvent primé.
C'est vrai que c'est souvent annoncé comme gnangnan, et justement, là, non, il a prouvé que la poésie était tout sauf gnangnan. Donc, c'est un peu de la poésie à la Kerouac. Si on peut le rapprocher, nous, d'un Français, on va dire qu'on va le rapprocher de Gainsbourg, je pense. Voilà, Gainsbourg, c'est peut-être un des plus proches qui a utilisé comme ça des rythmes de musique populaire et une écriture très poétique. Donc voilà, après, je sais pas, il y en a qui disent que c'est pas de la littérature. Moi, j'ai pris deux, trois citations. Pour moi, je sais pas si pour certains c'est pas de la littérature. Pour moi, en tous les cas, ça a vraiment un certain style. Donc voilà, donc je vais commencer. Mais déjà, je sais pas si c'était prophétique ou pas. Donc en 1983, et donc il avait écrit, donc la démocratie ne gouverne pas le monde. Vous feriez mieux de vous mettre ça dans la tête. Ce monde est régi par la violence, mais je suppose qu'il ne vaut mieux pas en parler. Donc voilà, à peine d'actualité.
Ouais, rien que ça. Ouais.
Donc une autre, c'était « À l'intérieur des musées, l'infini passe en jugement. Un écho de voix. C'est ainsi que doit être le salut après un temps. Mais Mona Lisa devait avoir le blues des chemins, à voir comment elle sourit. »
C'est très drôle parce que je trouve que c'est très en résonance avec l'album BD que j'ai présenté. C'est ça. Je crois que voilà, on a des grands penseurs qui vont nous dire que c'est pas de la littérature parce qu'il a pas publié ou très peu. Hein, il y a eu qu'une publication.
C'est ça.
Voilà, est-ce que c'est ça la littérature ? Le débat est ouvert, mais enfin, je crois que c'est surtout la beauté des choses qui compte plutôt que la façon dont elles sont diffusées finalement.
C'est ça, la qualité n'est pas forcément faite par la quantité.
Exactement. Ouais. Exactement.
Et une dernière, justement pareil. Combien de fois faut-il lever les yeux pour apercevoir le ciel ? Combien d'oreilles faut-il à un seul homme avant qu'il entende les autres pleurer ? Combien de morts avant qu'il ne comprenne que le nombre est déjà trop grand ? La réponse, mon ami, est soufflée par le vent.
C'est la musique
voilà,
qu'on vient
d'écouter.
Voilà.
Magnifique, mais est-ce qu'on en saura plus assez rapidement là, sur le fait qu'il aille le récupérer, s'il va le refuser si,
Ah ben, de toute façon, c'est le 10 décembre, je crois, que...
La cérémonie.
Que se fait la cérémonie. Donc,
d'accord.
Mais pour le moment, même... Même à la maison en Suède, ils n'ont pas eu de retour de lui. C'est-à-dire, il leur a pas répondu.
Il redoute ça maintenant qu'il le refuse.
Pas forcément qu'il le refuse, mais par.
Après, la difficulté pour nous Français, pas forcément super anglophones, c'est la difficulté de juger justement de ce style littéraire de Bob Dylan. Enfin, moi, j'avoue que j'en suis complètement incapable. Après. À l'annonce, alors moi j'étais pas en direct, mais quand je l'ai appris dans l'après-midi, j'étais ravie parce que je trouve que ça démontre que le comité Nobel est une certaine modernité du comité Nobel. Je trouve ça plutôt rassurant. Ouais.
Une certaine ouverture.
Enfin, ça m'a réjouie dans ce sens-là. Quoi.
Ouais, complètement.
J'aurais pas plus été capable de juger s'ils avaient choisi un auteur publié américain et publié et reconnu. J'aurais pas pu mieux juger, mais.
On imagine que pour certains de la profession, ça doit être.
D'autant plus qu'aux États-Unis, donc le prix Nobel n'était pas revenu depuis très longtemps et que il y a deux ou trois auteurs identifiés comme pouvant l'obtenir. Et j'imagine que ça fait d'autant plus polémique.
C'est ça, ouais.
Merci Eric, on refera peut-être un point après le 10 décembre, alors c'est bien ça.
C'est ça, ouais.
Ok, on verra ça, on verra l'évolution. Adeline, on passe à la loi numérique.
Oui,
Qu'est-ce qui se passe ?
Je reviens sur du numérique encore et toujours, mais en l'occurrence, c'est aussi pas mal d'actu qui sont liés en ce moment autour de ces thématiques. Donc, je voulais vous parler d'une loi qui mêle donc politique et numérique et qui fait assez exemple à plusieurs titres, à mon sens. Déjà, c'est la première fois qu'une loi est proposée en consultation publique, c'est-à-dire que avant l'écriture même des propositions de loi, la secrétaire d'État en charge du numérique, Axel Lemaire, a ouvert une consultation publique et donc ouvert à tous, où on a tous pu contribuer. En l'occurrence, individuellement, j'ai contribué sur cette plateforme et où du coup l'idée c'était de proposer en amont du coup de tous les travaux. Autour de cette loi, chaque citoyen pouvait proposer des articles à cette loi. Donc en tout, c'est 21 330 contributeurs qui ont voté et qui ont contribué. Alors c'est à l'échelle de la France pas beaucoup, mais bon voilà, c'est aussi des dispositifs un peu innovants en termes de démocratie ouverte. Donc voilà, ça mérite d'être encore un petit peu.
On était fortement encouragés pourtant par les webs du Gévaudan.
On était fortement encouragés par Pierre Grillet notamment sur ses contributions. Mais voilà, c'est vrai que c'est une loi qui fait exemple en ce sens en tout cas. Et puis, toutes les modifications qui ont été apportées après par le gouvernement, toutes les synthèses des débats sont visibles sur la plateforme, sont disponibles. Donc, on peut vraiment saluer la transparence qui a été mise, en tout cas, en exergue autour de la construction de cette loi. Et donc, c'est une loi qui a été adoptée le 28 septembre 2016 au Sénat. Et promulgué par le président de la République le 7 octobre. Et donc, du coup, en quoi consiste cette loi? Parce que du coup, une fois qu'on a dit loi numérique, on n'a pas dit grand-chose. Les principaux piliers de cette loi, c'est déjà de garantir l'accès à tous dans tous les territoires. L'accès, donc, en termes de tuyaux, on en parlait encore tout à l'heure avec Orange, mais aussi de développer tous les usages qui sont liés aux nouveaux outils numériques, d'en faire des opportunités économiques et sociales, et puis que l'ensemble de la société puisse en bénéficier. Donc il y a un certain nombre d'articles, je ne vais pas évidemment tous les citer aujourd'hui, mais j'en avais quand même souligné quelques-uns que je trouve intéressant de mettre en exergue. Alors il y a un article qui concerne la neutralité du net. L'idée, c'est que dans cet article, on inscrit dans la législation française le principe de neutralité, qui donc donne accès et garantit l'accès à tous au réseau en fonction des différents fournisseurs d'accès. Parfois, il y a des discriminations d'accès hein, en fonction des différents publics. Donc, en inscrivant dans cette loi la neutralité du net, on part du principe que l'ensemble des citoyens peuvent avoir un accès égaux à la connexion. Il y a aussi un article sur la mort numérique. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet quand on parle des usages numériques. C'est comment on peut, à un moment donné, supprimer des données et du coup, ce qu'on appelle la mort numérique, donc supprimer une image et une identité numérique. Donc, il y a un article qui parle de ça dans cette loi. Et puis, un article, pour la première fois, et ça, je voulais aussi le noter, un article spécifique qui est dédié à la médiation numérique. Donc, je pense qu'Axelle Lemaire, qui sera présente aux Assises en novembre, en parlera aussi. C'est la première fois qu'on parle de médiation numérique, qu'on parle de l'importance de l'accompagnement aux outils et à l'accès à tous à ces outils. Donc, voilà, il y a vraiment aussi des enjeux d'équité et des choses qui ont été écrites noir sur blanc dans cette loi qui méritaient d'être soulignées, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui.
Et qui voilà. Sont confortées ou amendées actuellement par le débat sur la loi Montagne?
Alors, il y a des débats qui se croisent, en effet.
Il y a une partie numérique dans la loi Montagne qui est actuellement en débat. Alors, à l'Assemblée nationale la semaine dernière et qui va venir au Sénat prochainement. Donc, voilà, des choses qui forcément sont interactives et des choses qui n'ont peut-être pas pu être obtenues dans la loi numérique qui pourraient l'être via la loi Montagne.
Absolument, absolument.
Voilà. Et Pierre Augrier, toujours...
Toujours aux manettes. Voilà. Toujours aux manettes, au combat, en tout cas, voilà. Sur le territoire. Mais voilà. En tout cas, vraiment une loi qui fait sens et qui va dans le bon sens et qu'en tout cas, qui renforce l'accompagnement au numérique et qui permet à tous les territoires, en tout cas, de prétendre un certain équilibre sur ces sujets.
Un peu de positif, alors, dans ce voilà. Monde du numérique.
De brut.
Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup à vous trois, Adeline, Caroline et Eric. Merci aux très chers auditeurs et auditrices de 48FM de nous avoir écoutés. Cette émission est rediffusée le jeudi 19h et le mardi 12h30. Est-ce que quelqu'un peut juste nous rappeler comment vous pouvez nous contacter?
Alors ben forcément par les réseaux sociaux en tout cas.
Allez-y, voilà, n'hésitez pas.
Sur le compte Twitter de 48FM Mende, sur la page Facebook aussi, évidemment sur le site internet. Sur lequel vous pourrez retrouver aussi tous les podcasts des émissions. Donc voilà, n'hésitez pas.
Si vous ne trouvez pas le hashtag Los Actuali.
Si vous ne trouvez pas, c'est que vous y mettez la mauvaise volonté.
N'hésitez pas, on attend vos commentaires, c'est important.
Voilà.
Merci beaucoup, c'était Los Actuali numéro
4. Merci Corentin d'avoir
merci.
Si brillamment
merci,
ouais. Passé Guillaume.
Merci à vous, vous êtes adorable.
Merci pour les virgules. Et
tu reviens quand tu veux du coup Corentin, ou en duo avec Guillaume, il n'y a pas de
voilà, exactement.
Non, mais on va le virer Guillaume. Merci beaucoup, excellente journée à vous, à très bientôt.
Bonne quinzaine.
Bye. Au revoir.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.